Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Duhamel.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous écouter ce matin et prendre le temps avec vous parce que d'abord, il faut qu'on comprenne cette attente. 49e jour d'attente. Qui mieux que vous pour essayer de comprendre avec vous ce moment d'attente et ce qu'il peut en sortir. Mais pour une fois, je veux aussi parler de vous. Vous allez vraiment arrêter ?
À la fin de la saison. Vous avez encore à me supporter une saison entière et ça ne sera pas n'importe quelle saison.
Et je peux vous dire que je vais en profiter comme jamais. Mais pourquoi ?
D'abord parce que ma femme le demande. Elle me le demande d'ailleurs depuis 10 ans chaque année, mais enfin de plus en plus fort. Et puis parce que je trouve qu'il y a un moment. Puis il y a trop de gens de la famille en plus.
Il y a de ça ? Ça vous met mal à l'aise, ces critiques qui ont pu avoir sur la dynastie de journalistes?
La dynastie, c'est complètement idiot, puisque c'est des branches différentes. Mmh. Moi, je ne suis pas une dynastie. Mon père n'était pas journaliste et mon fils n'est pas journaliste. Bon. Mais
votre frère votre belle-sœur l'est, et évidemment votre neveu.
Mon frère, déjà sous Giscard, ça ne nous rajeunit pas. J'étais sur la 2, il était sur la 1. Et c'était un problème. C'était un problème politique à l'époque, qui était d'ailleurs public. Et là, mon frère est sur une autre chaîne, très estimable. Mais je n'aime pas quand on est à la même heure, sur le même sujet et sur deux chaînes concurrentes. Donc ça a joué, oui.
Est-ce que vous vous dites aussi que peut-être justement c'est le moment de les laisser en quelque sorte grandir? On peut évidemment parler de Benjamin dans
oui,
cette chaîne.
Oui, ils grandissent très bien sans moi. Voilà. Alors là, de ce point de vue, il n'y a pas de problème.
C'était plutôt la gêne d'avoir...
C'était plutôt l'âge quand même. Mmh. Bon, et quand on a un certain âge, et moi un âge certain, on a toujours peur de ne plus trouver ses mots, d'oublier quelque chose. Mais d'accord, mais on...
C'est pas du tout le cas. Et le nombre de directs qu'on a fait ensemble, et je peux même dire, et c'est une des choses qui m'a toujours impressionnée et plu chez vous, c'est que lors de nos soirées électorales, par exemple, vous êtes même comme un enfant qui attend d'avoir la parole et qui lève le doigt par enthousiasme, par impatience de pouvoir justement parler parce que vous avez la passion de tout ce qui se passe sous nos yeux.
C'est par vraiment passion et aussi un peu par mémoire parce qu'à chaque fois qu'il y a une soirée électorale, j'ai dans ma tête toutes les soirées électorales auxquelles j'ai participé. Quand même la première soirée électorale auxquelles j'ai participé d'une manière indirecte mais quand même importante, enfin importante. En 1965, pour la première élection présidentielle où j'ai participé à la première opération d'estimation présidentielle qui était faite par l'IFOP et Europe 1 à l'époque. Et j'étais mêlé à ça. Bon, donc j'ai toutes les autres images qui reviennent dans ce cas-là.
Est-ce que vous vous êtes dit parfois que l'époque que l'on traverse était moins bien que celle d'avant? Ou est-ce que vous gardez toujours un enthousiasme sur ce qui se déroule sous nos yeux?
Alors, c'est toujours aussi passionnant, je dirais que c'est d'une certaine manière quelquefois de plus en plus passionnant. Bon, typiquement cette année.
On va y revenir tranquillement, mais j'aimerais savoir, même s'il y a eu des moments peut-être de mélancolie, de tristesse, on a des gens parfois disent c'était mieux avant.
Non, alors, en ce qui concerne l'intérêt, donc la passion en fait, franchement c'est tout le temps intéressant parce que tout se renouvelle, les hommes, les sujets, les drames, etc. Donc c'est toujours aussi intéressant. Maintenant, en ce qui concerne la satisfaction, l'évaluation des acteurs, le niveau des politiques, je ne vais pas vous dire qu'on va d'étape en étape vers des sommets éternels, parce que ça n'est pas vrai. Et quand je me rappelle, alors je sais bien que ça fait vieux monsieur de dire ça, enfin quand je me rappelle dans les années 80 qui étaient les chefs de file des différentes sensibilités, bon, on ne peut pas dire qu'on soit un Himalaya aujourd'hui par rapport à ce monde blanc-là.
C'est les chefs de parti ou effectivement...
Les grands leaders politiques.
Ouais.
Ils sont d'un niveau inférieur.
Est-ce que vous aimez notre époque, Alain Duhamel ?
Elle me passionne parce qu'elle est très neuve. Elle me dérange terriblement. Parce que, par exemple, je supporte mal, ça va peut-être vous paraître ridicule, je supporte mal que des gens autour de moi, des enfants, des petits-enfants, ne lisent pas, ou lisent peu. Mm. Ça, je trouve ça insupportable, et à ma génération, inimaginable. Bon, ça, il y a des choses comme ça. Bon, et puis, je ne vais pas vous dire que je suis un fanatique de la numérisation de la société. D'abord parce que je suis totalement incapable, inepte même. Mais bon, il y a des pentes, puis la violence, etc. Même si je relativise sur la violence, parce que j'ai connu de tels épisodes de violence dans ma vie que là, je peux relativiser. Mais il y a des choses que je n'aime pas. Il y a aussi des choses que je trouve formidables.
Hein. Lesquelles ?
Mais d'abord, dans les formes d'enseignement, on parle toujours de l'enseignement de façon négative, mais dans les formes d'enseignement, il y a des progrès dans certains domaines qui sont inimaginables. Par exemple, là aussi, ça va peut-être vous paraître ridicule, mais dans la documentation qui est donnée aux élèves, ce qu'on peut leur donner aujourd'hui par rapport à ce qu'on donnait...
Et d'ailleurs à nous, journalistes, parce qu'elle
est... Bien sûr.
On parlait d'un début où il fallait
absolument
avoir tout en tête, ou alors aller rechercher des documents. Il y avait des grands services de documentation, d'ailleurs, dans toutes les rédactions. Oui. Désormais, c'est vrai qu'on a besoin d'une information, là, de manière quasi immédiate.
Voilà, donc ça, c'est quand même un progrès énorme. Et puis, par rapport... Alors, là aussi, je ne veux pas dire par rapport il y a 50 ans, mais même
allez-y,
par rapport...
Allez-y, vous pouvez le dire.
Non, mais par rapport il y a 20 ans... je suis quand même frappé de voir que toutes les paroles se libèrent. Alors, elles ne sont pas toujours intelligentes, elles ne sont pas toujours agréables à entendre, mais en soi, c'est bien. C'est bien que les gens s'expriment, même si c'est pour râler, puis même on connaît les Français, si c'est en étant tout le temps défaitiste.
Il y a quand même une plus grande liberté. On a gagné en liberté.
Oui, on a gagné en liberté. On a gagné aussi en risque, parce que ça va ensemble, mais on a gagné en liberté.
J'aime le mot que vous venez de dire, vous avez dit, je peux relativiser, notamment sur la violence, et c'est vrai que c'est une des choses formidables avec la mémoire dont vous êtes l'incarnation encore ce matin, c'est de pouvoir relativiser, alors que notre époque a souvent le nez sur le guidon. Prenons justement le temps de comprendre cette époque, mais je n'hésiterai pas à revenir parfois justement sur la mémoire et le champ que vous en avez.
Ça, je vous fais confiance pour ne pas hésiter.
Quel scénario ? Est-ce que si la société civile, est-ce que si Thierry Baudet, qui est le dernier nom en date, mais enfin je vous aurais interrogé hier matin, je vous aurais dit Bernard Cazeneuve, quel scénario, Alain Duhamel ?
Moi, ce qui me frappe, d'abord, ça a été la surprise gigantesque de la dissolution. Alors ça, je n'avais pas imaginé ça un instant.
On l'a vécu ensemble, en direct, un dimanche soir.
Et exactement. Et j'ai trouvé ça extravagant. Et extravagant et non pas irrationnel, mais sur le moment incompréhensible. J'ai cherché ensuite...
Avez-vous compris depuis ?
La première chose que... Ça va vous paraître dérisoire, ce que je vais vous dire. Mais la première chose que j'ai faite le premier jour de mes vacances, c'est de prendre le livre de Dostoïevski, que je n'avais pas lu depuis 50 ans, qui s'appelle Le Joueur, pour essayer de comprendre ce qu'il pouvait y avoir dans la tête d'Emmanuel
Macron. Ça n'est pas du tout dérisoire. Est-ce que ça vous a donné des clés ?
Je me suis dit qu'il y avait forcément une démarche. Parce que ça n'est pas un intuitif empirique. Il a des stratégies. Je pense qu'il s'est complètement trompé sur ce qui allait se passer à gauche, c'est-à-dire qu'il n'a pas cru que la gauche pouvait ressusciter dans une unité, même artificielle, même dangereuse, mais instantanée et efficace. Bon, je pense que ça, il l'a complètement laissé de côté. Je pense qu'il a voulu jouer aussi un peu à qui tout double avec Marine Le Pen, c'est-à-dire de deux choses l'une. Ou bien il gagne et à ce moment-là, c'est Bardella et on voit qui est capable de faire quoi. Ou bien il perd et c'est moi qui l'aurais fait perdre de nouveau.
Mais le joueur est un homme malade.
Et ça se termine mal.
Il est malade, ça se termine mal et il est dans cette addiction. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous dites, il s'est enfermé dans une forme quasi de maladie ou en tout cas solitude ?
Solitude, bon, il parle beaucoup à beaucoup de gens, ce qui ne veut pas dire qu'il les entende, ce qui ne veut pas dire qu'il en tienne toujours compte. Mais finalement, quand il a parlé à 20 personnes dans la journée, il en reste quelque chose. Je ne crois pas trop aux explications psychanalytiques, bien que j'en ai lu beaucoup pendant ces vacances. Je pense que c'est quelqu'un qui est foncièrement atypique, qui a un fonctionnement atypique.
Malgré tout, on va essayer de comprendre ce qu'il se joue. Je vous reviens à la question du scénario. Plusieurs scénarios sur la table. Dans les toutes prochaines heures, probablement, on en aura la clé. Un choix politique d'expérience, un Bernard Cazeneuve, un Xavier Bertrand, le choix au contraire de quelqu'un qui n'a pas de bilan politique, un Thierry Baudet, dont on a pour nombre d'entre nous quasiment appris le nom hier, président du CESE, le Conseil économique et social, avec un gouvernement technique. Quel serait l'avantage ou l'inconvénient de l'un ou de l'autre ?
Bon, alors, d'abord, je pense que si c'était le président du Conseil économique, social et environnemental, je pense que ce serait dans le mauvais ordre. Je pense qu'un gouvernement avec un non politique à sa tête, c'est, ça doit être l'ultime recours si d'autres tentatives ont d'abord été faites avant. Je pense que la logique, mais je pense ça alors depuis le début, je pense que la logique aurait été de demander à Madame Castex de former son gouvernement. Elle l'aurait fait, elle se serait présentée, elle aurait été censurée. Mais le jeu aurait été joué comme il doit être. C'est pas une règle constitutionnelle, mais c'est du bon sens et de la tradition politique. Puis ensuite, il fallait demander à quelqu'un, au contraire, de droite, même scénario, serait présenté, censuré. Et une fois que la gauche et la droite auraient démontré qu'ils étaient incapables de résister à des censures, à ce moment-là, l'hypothèse d'un gouvernement qu'on appelle technique, un gouvernement, c'est jamais technique, hein, mais un gouvernement de personnalité de la société civile, ou en partie de personnalité de la société civile, ça, ce serait imaginable. Ça, ce serait le bon ordre.
Donner leur chance, en quelque sorte, à la gauche d'abord, à la droite ensuite. Et si aucun des deux ne s'en sortait, alors pouvoir justifier, en quelque sorte, et dire, écoutez, vous n'avez pas réussi, je vous ai donné votre chance.
Tout le monde l'a vu, les Français le savent, ils ont demandé un changement. On vous a
proposé d'un côté,
de l'autre.
Doute. Or, désormais, il y aura toujours ce doute. Il y aura toujours Lucie Castex qui pourra dire, mais j'aurais réussi. Oui.
Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'y ait pas encore eu à gauche quelqu'un pour dire, et si c'était notre prochaine candidate à l'élection présidentielle. J'attendais ça et je me suis trompé, c'est pas encore sorti.
C'est peut-être pas que vous vous êtes trompé, c'est peut-être que vous avez raison avant d'autres. Quand Olivier Faure dit il faudra un candidat unique, au fond, on a quand même l'impression que ceux qui ont le plus petit dénominateur commun, le plus petit bilan, sont les seuls sur lesquels ils arrivent à se mettre d'accord.
Je suis d'accord.
Le nouveau Front populaire est-il d'ailleurs fini ?
Il est artificiel. Bon, il a un handicap de départ. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, c'est un personnage de roman, hein, qui a une vraie envergure, qui a un rêve, c'est d'être un Mitterrand de gauche, parce qu'on n'était pas Mitterrand, il est bien placé pour le savoir, d'être un Mitterrand de gauche. Bon, ce rêve maintenant, il est évanoui. Il sera peut-être candidat, mais le rêve est évanoui. Mais il a essayé, il a tout fait pour y parvenir.
Vous pensez que le rêve est évanoui ? Vous pensez qu'il y a renoncé ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait renoncé. Mais d'abord, je ne suis pas sûr qu'il puisse se présenter. Ça dépendra, peut-être Madame Castex, on ne sait pas. Ou quelqu'un d'autre. Bon, et ensuite, je pense que maintenant, il fait plus office de repoussoir que d'attirer des électeurs vers lui.
Est-ce que ça peut créer tout cela une immense frustration pour les sortir finalement un gouvernement technique, c'est alors quelqu'un sur lequel les électeurs n'auront aucun poids. C'est-à-dire que ce ne seront pas eux qui l'ont choisi et ce ne sera pas eux qui pourront le sanctionner.
Je pense que quel que soit le Premier ministre, qu'il soit de centre-gauche, de centre-droit ou de la société civile, de toute façon, ça devra être quelqu'un qui a eu des relations très critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Parce que c'est non seulement la logique démocratique, mais la nécessité absolue pour que quelqu'un accepte. Autrement, ça n'est pas jouable. Si c'était quelqu'un qui avait de très bonnes relations avec lui, on dirait, évidemment, c'est une marionnette, c'est un pion, et ça le serait. Donc il faut quelqu'un qui ait un passé conflictuel avec Emmanuel Macron. Et puis ensuite, il faut quelqu'un qui ait l'envergure d'un Premier ministre. Et tout le monde n'a pas l'envergure d'un Premier ministre.
Est-ce que c'est pas plutôt un directeur de cabinet qu'il est en train de chercher?
Non, je crois pas. Je crois pas parce que ça, c'est pas jouable. Alors, justement, je voulais vous dire, l'autre chose, c'est que quel que soit celui qui sera Premier ministre, il faudra qu'il prenne de toute façon, que ça fasse plaisir ou non. Moi, il y a beaucoup de mesures qu'ils prendront qui ne me feront pas plaisir, personnellement, parce que je les trouverai pas rigoureuses, adaptées. Mais il faudra qu'il prenne des mesures de rupture par rapport à ce qui s'est fait. C'est évident qu'en matière de retraite, en matière de fiscalité, en matière d'éducation, en matière de construction d'appartements, etc.
Logement.
Il va forcément y avoir des mesures qui apparaîtront comme des ruptures. Autrement dit, je ne crois pas que celui, quel qu'il soit, qui sera nommé à Matignon, Emmanuel Macron a le droit de nommer qui il veut. Mais chacun a le droit de refuser aussi.
Mais lui, il est à droite ou il est à gauche ?
Il est les deux, il est lui.
Mais en ce moment ?
En ce moment, il est plus à droite aujourd'hui qu'il ne l'était en 2017,
donc,
ça c'est sûr.
Quelque chose d'un peu contradictoire, effectivement, à se dire que si le pays est plus à droite, il finisse avec un Premier ministre qui soit plus à gauche.
On dit ce qui est la réalité, que de toute façon, cette fois-ci, pour la première fois sous la Ve République, sauf la période 58-62, je vous la laisse. Mais en dehors de ça, en dehors de ça, c'est la première fois que le Parlement va vraiment jouer un rôle moteur et même un rôle décisif. Et donc, Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on dit souvent, ne perd pas tous ses pouvoirs, toute son influence. Il en garde beaucoup, mais le Parlement sera beaucoup plus puissant qu'il ne l'était. Et donc, il n'y aura pas de marionnette à Matignon. Ça, je n'y crois pas un instant.
J'aimerais avoir la même finesse historique que vous, Alain Duhamel. C'est ce qui me faisait rire quand vous me disiez « je vous la laisse ». Oui, il n'y avait pas spontanément fait référence. Quand même, un mot aussi sur la stratégie et sur, vous avez dit, le joueur. Parfois, on se demande s'il ne se joue pas de nous, mais aussi de... Quand hier, Emmanuel Macron reçoit très officiellement Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, mais dans le même temps, laisse fuiter l'idée qu'au fond, il y a un troisième nom qu'on n'avait pas vu venir, qui est terrible, oui. Qui est Thierry Baudet. Est-ce que c'est pas se jouer d'eux ? Est-ce que c'est pas même assez humiliant, humainement ?
Disons que même François Mitterrand au pouvoir était plus simple. Et donc Emmanuel Macron est certainement celui qui, au pouvoir, dans l'utilisation de la communication et dans la tactique, parce que là c'est pas de la stratégie, vis-à-vis de la nomination, a trois ressorts. Un premier ressort, il faut qu'il accepte de montrer, et il le sait très bien, alors il le fait, puis il le fait qu'à moitié, etc., que les Français ont voté contre lui.
Bon, il a du mal quand même. Hein.
Oui, mais enfin, il est obligé, d'ailleurs, il peut difficilement. Deux, qu'il faut qu'il donne le sentiment qu'il ne cherche pas à se moquer de l'Assemblée nationale, mais au contraire à la respecter, ce qui, sous la Ve République, pour le coup, est une grande nouveauté, sauf période de cohabitation. Mais n'oublions pas que là, ce sera une demi-cohabitation. Mmh. Hein. Ce n'est pas une cohabitation avec...
avec une opposition forte, une majorité...
Voilà. Là, c'est un paysage éclaté, et complètement éclaté, terriblement difficile. Bon. Et puis, trois, il faudra que, justement, il n'apparaisse pas comme soit un marionnettiste, soit quelqu'un ayant envie d'agir comme un marionnettiste, même si ça n'est pas vrai. C'est parce que ça serait à son détriment. Or, il a envie d'avoir une influence jusqu'au bout. Et je pense que pour la prochaine élection à laquelle il participera pas, il aura en tout cas un pouvoir de nuisance.
Un pouvoir de nuisance.
Oui. Ce qui voudra dire que, les différents candidats auront intérêt à réfléchir à leur relation avec lui.
Joueur, mais pas marionnettiste. Alain Duhamel, vous allez faire quoi ensuite ? J'imagine pas une seule seconde que vous allez juste aller jouer au tennis.
Non, alors d'abord, c'est de plus en plus difficile.
Oui, mais je peux le dire, je vous ai vu jouer au tennis et je vous ai trouvé remarquable. Alain Duhamel, est-ce que vous avez envie de continuer à regarder, de continuer à analyser à la fin de cette année dans laquelle on va beaucoup profiter de vous?
Je vais pas être hypocrite, ma passion pour la vie politique et d'ailleurs pour la vie française en règle générale ne va pas disparaître, hein. Je n'aurai plus d'activité professionnelle. Je n'aurai plus de contrat. Je ne serai un collaborateur de personne. S'il se passe des choses importantes et qu'on me demande mon avis, surtout si c'est quelqu'un qui interroge bien, je vous dirai oui.
vous me direz oui. Je voulais penser aussi quand même ce matin, parce que vous avez dit, il y a la gêne aussi de la famille et tout ça, mais... Oui, j'ai bien compris, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la tristesse quand même de ne plus avoir votre complice de toutes ces années, Jean-Pierre Elkabbach?
Ben si, bien sûr. Et alors, à chaque fois qu'il y a une interview un petit peu marquante, je pense à la façon très particulière qu'il avait de procéder, qui n'était pas une façon que j'approuvais, mais qui était une façon que j'admirais. C'est ce qui était compliqué. Je n'approuvais pas sa technique qui consistait à passer trois quarts d'heure au téléphone avec l'invité la veille et puis à le voir au moins une demi-heure avant son interview. J'aimais détester ça. Quand on faisait des émissions ensemble, y compris avec des présidents, lui y allait, moi je disais non, moi j'y vais pas, je n'y allais pas. Donc je n'aime pas sa technique, mais j'admire le virtuose inégalable.
Et vous en parlez toujours au présent. Vous aviez l'habitude
mais
de vous appeler.
Je pense à lui très souvent.
Mais oui, j'ai bien pensé. Ben oui. Je me suis dit qu'il devait y avoir aussi de ça.
Ah oui. Et puis
de ne plus pouvoir lui passer votre coup de fil.
Ben oui, c'est plutôt lui qui m'appelait.
D'accord.
Parce qu'il est plus bavard que moi. Enfin, vous voyez, je parle encore au présent.
Mais oui, mais je le comprends parfaitement. Alain Duhamel, merci d'avoir pris le temps avec moi ce matin. On le refera dans l'année. Je peux vous dire que je ne vais pas vous laisser partir comme ça. On profitera particulièrement dans cette année où on aura encore plus besoin que jamais de votre analyse et de votre mémoire. Alain Duhamel, éditorialiste politique à BFM TV toujours. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.